OK, on va commencer par s'adresser à Dieu pour bénir notre assemblée, bénir notre étude. Ô Dieu Tout-Puissant, grand Seigneur, grand Roi, toi qui règnes sur l'univers entier, toi qui as créé l'univers entier par la puissance de ta parole, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur, et nous exaltons ton Saint-Nom par-dessus tout nom. Nous te savons un Dieu d'amour, un Dieu d'une puissance infinie, un Dieu glorieux qui est loué continuellement par les anges, l'Assemblée des saints. Encore une fois, Seigneur, nous savons que tu nous as aimés de toute éternité, tu nous as choisis, tu nous as fait grâce, tu es un Dieu gracieux et nous en sommes reconnaissants ce soir et nous voulons te le manifester. Seigneur, nous savons que tout en toi est merveille et gloire et nous voulons de plus en plus que tu nous fasses la grâce de mieux te connaître dans tout ce qui est révélé de toi dans les Saintes Écritures, ta perfection infinie en toutes choses. Nous voulons également te remercier pour Jésus, le Christ notre Seigneur, notre Sauveur, qui a accompli cette œuvre immense de rédemption, cette œuvre glorieuse, cette œuvre d'amour. Seigneur, nous te demandons aussi de nous apprendre par l'étude, par la lecture et par la méditation des Saintes Écritures, que nous apprenions davantage à connaître toutes les facettes, tous les aspects de l'œuvre de Jésus-Christ qui sont si diversifiés, si pleins de remplis d'amour, de sagesse, de gloire. Et le prix qu'il a payé, Seigneur, va bien au-delà de notre capacité d'imaginer le prix qu'il a payé pour nous. Son amour a été inexprimable aussi, et nous sommes incapables aussi d'en saisir toute la profondeur, toute la richesse. Nous te remercions également pour le Saint-Esprit, et nous te demandons qu'il soit d'une manière particulière avec nous ce soir, Seigneur, de façon à ce que la leçon que nous allons étudier puisse nous profiter et puisse voir jusqu'à quel point, Seigneur, les hommes ont été habiles pour développer toutes sortes d'objections à ce que tu nous montres dans cette parole comme étant la vérité. Ton Saint-Esprit nous guide, nous éclaire et nous convainc, Seigneur, de toutes ces vérités afin que nous puissions non seulement les apprendre nous-mêmes, mais les répandre et les enseigner aux autres dans le but de te glorifier. Nous te demandons pardon, Seigneur, humblement, avec toute la sincérité de notre cœur. Nous reconnaissons que notre vieille nature continue de nous habiter et qu'elle cherche à nous faire pécher et que nous sommes faibles, pauvres et vraiment misérables et que nous avons besoin de ta grâce en toutes choses pour demeurer fidèles et obéissants. Nous te demandons, Seigneur, pardon des péchés que nous avons pu faire dans nos pensées. Et on sait avec quelle rapidité elle peut vagabonder notre pensée et vouloir se délecter dans les plaisirs du péché. D'ailleurs, nous te demandons que tu sanctifies notre imagination elle-même, que tu sanctifies aussi nos paroles qui sont souvent légères et insensées. Apprends-nous, Seigneur, à avoir un langage qui soit à la hauteur de du fait d'être tes enfants. En nous avoir un langage royal, un langage saint. Débarrasse-nous de tout ce qui est expression folle, de tout ce qui est mondain dans notre manière de nous exprimer. Et Seigneur, permets qu'on se rappelle toujours que tu nous dis qu'on va avoir à rendre compte pour toute parole qui est sortie de notre bouche. Nous te demandons seulement aussi, Seigneur, de nous diriger dans nos actions, que chacune soit faite pour ta sainte gloire et non pas pour des motifs impurs ou des motifs humains ou des motifs d'orgueil ou quelque autre motif que ce soit. Eh bien, que ce soit un motif théocentrique dont toi seul sois l'objet, dont toi seul sois la gloire, qui est pour objet ta gloire seule. Seigneur, nous te demandons de bénir cette assemblée ce soir, chacun d'entre nous, de préparer nos cœurs, de faire en sorte qu'on comprenne les objections d'ennemis face à la doctrine de la grâce, qu'on soit capable d'y répondre nous-mêmes. Et nous prions également pour toutes les assemblées qui sont réunies ce soir, un peu partout au travers le Canada, les États-Unis, partout où il y a des assemblées ce soir, afin que ton esprit dirige et guide. Je te demande de bénir et de permettre que le Saint-Esprit accompagne celui qui va apporter la parole, de façon à ce que chacun des tiens soit béni et édifié. Nous voulons te rendre grâce également, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies chaque jour, non seulement dans la vie des tiens, des élus, de tes dirigeants, mais aussi dans la vie de tous les hommes, à tous les jours. On sait que les hommes sont souvent ingrats, et nous aussi, Seigneur, parfois, comme chrétiens, nous sommes ingrats. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre propre ingratitude et aussi pour l'ingratitude de ceux qui oublient de te remercier pour la multitude de bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour, sans même que parfois nous en soyons conscients. Seigneur, nous te demandons de nous bénir, d'être avec nous et de permettre que durant tout le culte, nous ayons cette attitude que nous voulons adopter pour l'avenir, soit celui de la crainte de Dieu, celui de la révérence, celui de l'adoration pure et la plus sainte possible. Nous te demandons toutes ces choses par les mérites de Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Donc, les objections calvinistes, on va les voir sous deux ans. Cette semaine, on va regarder l'aspect des arguments qu'on appelle les arguments humains. Et la semaine prochaine, on va regarder plus ceux qu'on pourrait appeler les arguments bibliques, donc ceux qui sont tirés des versets comme tels. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle que dans les doctrines qu'on appelle communément les doctrines de la grâce, quand c'est opposé, c'est une chose historiquement qui pourrait être démontrée. Il y a toujours eu opposition aux doctrines de la grâce et c'est incompréhensible jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins trois sources d'opposition. D'abord, il y a, je dirais, celle la plus grande, qui est celle de Satan lui-même, qui cherche, par l'intermédiaire de ses ministres, à introduire des fausses doctrines, à introduire des choses qui enlèvent de la gloire à Dieu. Alors, à l'intérieur des volumes, à l'intérieur des hommes qui poussent les fausses doctrines, il y a toujours l'influence du démon, de Satan, qui en arrête de ça, et qui cherche à enlever de la gloire à Dieu, enlever de la puissance au salut du Seigneur, et enlever la souveraineté de Dieu. En tout cas, il travaille vraiment fort pour chercher, et d'ailleurs, il réussit jusqu'à un certain point, du moins dans le milieu de ceux qui sont des professeurs uniquement. Alors, ils ont reçu de la vérité, ils ont reçu des choses, mais avec son habilité, il réussit à les en éloigner. Il y a un autre facteur qui est une source d'opposition aussi, c'est notre propre chair. La chair est inimitié contre Dieu. Il ne faut pas oublier que même après qu'on est sauvé, notre chair demeure présente. Ce qui nous différencie d'un païen, c'est que lui, il a la chair seulement. Nous, on a la chair et l'esprit. Normalement, si on a une vie sainte, on devrait avoir une vie dominée par le Saint-Esprit et notre chair devrait prendre de moins en moins de place plus on avance dans la vie chrétienne. Mais la chair, c'est quelque chose qui lui déplaît, la peine de la grâce. Que Dieu soit souverain, qu'il n'y ait pas un mot à dire là-dedans, qu'il est complètement passif en ressentant ça, que c'est un don de Dieu, etc., tous les autres aspects, que la grâce est irrésistible, que Dieu est souverain, tous les points qu'on a regardés, ça déplaît à la chair. L'homme aime mieux être sur le trône, puis Dieu, il aime mieux voir Dieu comme étant un Dieu qui cogne à la porte en quêteux. Alors que c'est exactement l'inverse, c'est Dieu qui est sur le trône, puis c'est l'homme qui est à ses pieds, qui est quêteux. Alors, il y a une autre chose qui aussi est une autre source d'opposition, c'est la raison. La raison humaine, quand elle ne comprend pas quelque chose, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle a la prétention d'être capable de tout comprendre. Et la Bible est pleine de choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Exemple, la Trinité. Exemple, les décrets éternels de Dieu. Exemple, la souveraineté de Dieu. Exemple, la grâce souveraine. Exemple, la grâce irrésistible. Plein de choses comme ça, puis là, je n'épuise pas les sujets qui sont difficilement compréhensibles dans la Bible, mais la Bible est pleine de choses que notre raison est incapable de saisir. Alors, si on essaie toujours de mettre la Bible sous la raison, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui sont au-dessus de notre raison, et comment on forcera tout nos ménages. Je mets n'importe qui au défi, là, d'essayer de m'expliquer la Trinité. Il va sortir des exemples, mais la plupart des exemples qui sont utilisés, même dans les livres de théologie, ne sont pas des exemples très, très, très probants, très, très intelligents. Des exemples qui cherchent à s'accommoder à notre vieille nature, puis cherchent à nous faire comprendre des choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Alors moi, je me dis, dans les choses qui sont au-dessus de notre raison, la seule chose qu'on a à faire, c'est de croire ce que Dieu dit. Je ne vais pas essayer d'expliquer des choses comme ça, parce que quand tu essayes de rentrer dans les mystères de Dieu, les seules choses que tu peux dire, c'est Dieu est dit. Les seules choses que tu peux dire d'intelligent, c'est ce que Dieu révèle. Si tu fais simplement répéter ce que Dieu a déjà inscrit dans sa parole, tu ne te tromperas pas. Et si tu commences à vouloir expliquer des choses comme ça, comme on va voir tout à l'heure, justement, un de leurs problèmes, c'est de vouloir essayer d'harmoniser la souveraineté de Dieu avec la responsabilité humaine. Et ça ne peut pas se faire. Alors, les sources d'opposition, la chair, Satan, la raison. Au moins trois sources. Maintenant, les formes. Il y a plusieurs formes. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur. Quand ça vient de l'extérieur, ça peut passer sous différentes formes. Ça peut être l'enseignement. Aujourd'hui, promène-toi à travers les États-Unis, à travers le Canada, à travers l'Europe, à travers le monde entier, et essaye de trouver le nombre d'écoles chrétiennes qui enseignent les doctrines de la grâce telles que révélées dans les Saintes Écritures, et je pense que tu vas pouvoir les compter sur les 10 doigts de ta main. Ou peut-être j'exagère, mais en tout cas, si j'exagère, je n'exagère pas beaucoup. Il y en a sûrement pas plus que 50, s'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Au Canada, la seule que je connaissais, c'est à Seaway, puis est fermée. Aux États-Unis, apparemment, il y en a une ou deux dans le sud, puis c'est à peu près tout. Deux ou trois, peut-être quatre, là. Je ne les connais pas toutes, là, mais pas beaucoup. Et en Europe, ça doit être la même chose. Il doit y avoir quelques écoles en Europe, peut-être quelques écoles en Afrique et dans les différents continents, mais il n'y en a pas beaucoup. Les autres écoles sont toutes sombrées dans le néo-évangélisme, sont toutes sombrées dans l'écuménisme, et la plupart n'enseignent plus ces vérités-là. Sinon, qu'ils ont les livres dans leur bibliothèque. Mais que, même souvent, on n'a même pas le droit de parler de ça sur le campus. Il y a des écoles bibliques cassées comme ça. On n'a même pas le droit de parler des doctrines de la grâce sous peine d'être expulsé. Alors, quelle sorte d'école biblique que c'est quand tu es rendu, tu ne peux plus parler de la doctrine principale de la Bible. Quand je dis principale, c'est sûr que la doctrine de Dieu est plus importante que la doctrine du salut, mais dans le fond, Dieu a écrit les Écritures pour qu'on soit au courant du salut. Il y a une autre forme d'opposition qui a été celle de la persécution. Si on regarde l'histoire chrétienne depuis Paul à venir jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le sentier du sang. Ceux qui ont voulu maintenir à tout prix les Vaudois, les Albigeois, les Calvinistes, les Anabaptistes, etc., etc., au cours de tous les siècles, ça l'a coûté l'emprisonnement, les biens de quelqu'un, la vie, des tortures, etc., etc. Ça a été combattu par l'Église catholique en particulier avec un acharnement et une violence inouïe, mais non seulement par eux, mais assez curieusement après par des protestants aussi. Parce que les protestants, après qu'ils ont été installés et qui ont été approuvés par les autorités politiques de leurs différents pays, où ils ont mélangé l'Église et l'État, bien souvent, ils se sont mis à persécuter eux-mêmes ceux qui n'étaient pas en parfait accord avec leur propre position. Exemple, les presbytériens, et on pourrait donner d'autres exemples. On ne rentre pas dans le détail de ça, c'est pas le but. C'est juste de voir que ça a toujours coûté cher aux chrétiens, peu importe le siècle, de maintenir la vérité, de demeurer dans la vérité. Soit ça t'amène l'isolement, soit ça t'amène du jugement, soit ça t'amène de la persécution, soit ça t'amène de l'emprisonnement, soit ça t'amène toutes sortes d'autres formes d'opposition, mais sont énormes. L'isolement n'est pas non plus une petite affaire non plus, parce que le fait qu'une grosse majorité des églises ne prêchent plus ces doctrines-là et qu'elles étaient obligées de se séparer d'eux,
t'es perçu par eux autres comme ils ont comme le goût ou l'intention de te classifier comme une secte. Parce que tu fais plus partie du grand groupe. Mais depuis quand que la Bible nous dit que c'est la majorité qui a raison? C'est la loi de la majorité, ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que ceux qui vont demeurer fidèles à la Bible, ils ne seront pas nécessairement dans le groupe de la majorité. Alors, l'isolement, ça t'amène à être dans des plus petits groupes, puis ça t'amène à être jugé durement par ceux qui se prétendent chrétiens ou qui professent l'être. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas là-dedans, il y en a probablement énormément, mais il y en a à cause des positions des pasteurs ou des dirigeants de l'Église qui ont abandonné ces doctrines-là. Alors, il y a probablement beaucoup de vrais chrétiens qui sont dans ces milieux-là, mais il y a une certaine forme d'ignorance qui s'est installée. Il y a un autre facteur qui est le mensonge. Il y en a qui peuvent être très conscients des doctrines, qui peuvent savoir que c'est la vérité. Moi, par exemple, je disais cet après-midi, les Jésuites, qui ça a été découvert dans des documents officiels, des lettres qui avaient infiltré certains milieux dans le but de les rendre arméniens, c'est-à-dire qu'ils avaient infiltré, ils disaient mot à mot, nous avons mis le poison de l'arménianisme dans leur rang, et il ne suffit que du temps pour que ça pousse. Alors, ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. Alors, eux, c'est du mensonge systématique. Ils savent que c'est la parole de Dieu. Ils savent que c'est la doctrine de la grâce. Ils s'y opposent comme les pharisiens, les scribes et les sadducéens dans le temps s'opposaient au Seigneur. C'est de la même race. C'est de la même gang. Mais c'est des modernes. Donc, c'est des pharisiens modernes, des sadducéens modernes, des scribes modernes. Ils savent la vérité. Quand Jésus est venu, ils savaient que c'était Jésus, ils savaient que c'était le Messie. Se sont opposés à lui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les Jésuites, et peut-être d'autres avant eux, les Jésuites, ils existent pas quand même depuis le début de la Bible, mais il doit y avoir d'autres groupes avant qui cherchaient à mettre le trouble dans les rangs du peuple de Dieu. Donc, il y a le mensonge. Il y a un autre facteur aussi. Celui-là vient de l'intérieur. Ce qu'on appelle en anglais de « closet Calvinist », c'est simplement des gens qui ont la conviction, calviniste 5 points, mais qui n'ont pas le courage de l'annoncer publiquement devant leur congrégation, de peur que ça dérange certaines personnes, de peur qu'il y en ait certaines qui quittent et qui perdent leur dîme, etc., etc. Alors, c'est de la lâcheté pure et simple, c'est de la paresse. Ils ont peur de faire leur travail, c'est ça qui se passe. Alors, il y a tout ça, des facteurs, quand on parle d'enseignement, il y a des facteurs qui viennent de l'extérieur, il y a des choses qui viennent de l'intérieur. Alors, à l'intérieur même, dans une église, parfois, il peut y avoir des personnes qui, disons, on prend un exemple, une église de 50 personnes, il y en aurait 5 ou 6 qui seraient calvinistes 5 points, puis le reste ne le sont pas. Bien, ils ne brasseront pas la cage, comme on dit, ils ne feront pas de vagues dans l'assemblée. Comme ils disent en anglais, they won't rock the boat. Ils veulent pas sa face de vague, ils veulent pas sa face de chicane. Donc, c'est ce qu'on appelle des closet calvinistes, autrement dit, des calvinistes de garde-robe. Ils sont calvinistes de conviction, mais ils veulent pas l'exposer, puis ils veulent pas rentrer en conflit. Donc, ils disent, on n'en parlera pas. Donc, si on n'en parle pas, on n'aura pas de trouble. Mais je pense pas que le Seigneur approuve ces gens-là. Parce que Jean ne nous a pas dit de prendre la vérité et de la cacher. Il nous a dit de prendre la vérité, pas de la mettre sur le boisseau, et de la mettre sur des collines pour que tout le monde la voie. Alors, c'est des lâches, tout simplement, des paresseux. OK, des qualifications de l'opposition. Maintenant, quand on parle d'opposition, on peut avoir certaines qualifications qu'on peut donner à ces mots-là. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu regardes des livres qui sont contre, tu vas voir qu'ils te servent toujours, la plupart du temps, des mêmes armes. J'en ai un livre qui pourrait être une illustration parfaite de ce que je vais vous dire. Ils font appel à l'émotion. Alors, quand tu joues avec les émotions du monde, alors là, ça vient stable. C'est présenté de façon... alors, ils jouent avec les émotions du monde et c'est quelque chose qui est dans le fond malin. Une autre chose qu'ils font, c'est qu'ils privilégient la raison. La raison, si on ne peut pas le comprendre, si on ne peut pas l'expliquer, on n'a pas d'affaire à accepter ça, donc ça doit être faux. Et là, ils font tout à fait toutes sortes de raisonnements et ils mettent la raison au-dessus de la Bible. grave erreur aussi. Comme autre qualification de l'opposition, on peut dire une chose. Elle est forte, elle est violente, elle est organisée, puis elle est systématique. Alors aujourd'hui, si les doctrines de la grâce sont si peu populaires, puis sont si peu, c'est qu'il y a juste un petit reste qui les défend, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu énormément de travail pour essayer de détruire tout ça, d'essayer d'enlever aux chrétiens leur joyau. C'est basé aussi sur plusieurs choses. Ça peut être basé sur de la mauvaise foi. On prend celle des jésuites. Ça peut être basé sur l'ignorance. Parce qu'il y a probablement des véritables chrétiens qui sont dans les églises. Ils ne connaissent pas les doctrines. Ils ne peuvent pas les approuver. Mais, regarde, on va prendre un exemple. George Mueller, qui vient du milieu des frères, il dit lui-même dans un document que j'ai ici qu'il s'est battu lui-même avec lui-même. Il s'est battu avec lui-même. Il savait les doctrines, c'était fait expliquer, il n'était pas capable de les accepter. Il dit, à force de lire ma Bible, je tombais sur des passages, puis le passage, il venait me chercher, mais je n'étais pas capable d'accepter ça. Ça a pris, je ne sais pas combien d'années, là, je pense que ça a pris 20 ans. Alors, c'est en partie une forme d'ignorance, c'est en partie une forme de la chair, elle a horreur de ces choses-là. Alors, la chair, elle vient s'opposer. Non, 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 c'est comme l'opposition systématique. Et aussi, c'est une forme de rébellion contre les Écritures. C'est que tu le vois dans les Écritures, puis tu as une multitude de passages, puis on dirait que le verset, il lui passe par la tête, c'est comme s'il se met un canard, puis ça se fait de l'eau qui passe au-dessus d'un canard. Ça glisse, ça ne veut pas rentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et c'est une doctrine qui est centrée sur l'homme, le petit cœur humain, le petit cœur de l'homme. Il aime bien ça, lui, être sur le trône, puis que Dieu soit à sa porte en train de cogner. Alors, lui, il aime ça, se mettre sur le trône. Alors que Dieu, c'est pour ça qu'il enseigne les Écritures. Et une autre chose que ça fait, cette forme d'opposition-là, ça mène au relâchement. Ça mène au relâchement, ça mène à l'apostasie, et ça mène à la dilution des Écritures, dans le fond. Les résultats. Quels sont les résultats des formes d'opposition qu'on vient de voir? C'est l'apostasie graduelle. Et on pourrait prendre, pour ça comme illustration, prendre la Downgrade Controversy d'Angleterre et va lire tout ce qui est sur Internet pour expliquer cette histoire-là. Comment Spurgeon a fini par se séparer de ceux qui n'enseignaient plus la vérité et pourquoi. Et quels ont été les effets à long terme sur ceux qui sont demeurés, qui ne se sont pas séparés avec Spurgeon. Ils en sont venus à être des universalistes. Alors, c'est assez grave à ton goût. Là, ça amène à l'apostasie graduelle. Plus tu t'éloignes des doctrines de la grâce, de la doctrine pure, plus tu t'en vas vers les différentes formes de glissement qui ultimement te rendent soit vers l'apostasie, ou soit vers l'universalisme, ou soit vers l'athéisme complètement. Et on a vu que certains docteurs, du temps de John Gill, il y en avait un docteur en théologie, qui s'estimait avec lui, dont je ne me souviens plus le nom, de toute façon, ce n'est pas important, Whitby, le docteur Whitby, qui s'estimait avec lui, et à la fin de sa carrière, il est devenu un universaliste. Alors, c'est la meilleure preuve historique, et je pense qu'on pourrait multiplier le genre d'examen, le genre d'expérience comme ça, là. Et ce que ça fait aussi, les résultats de l'opposition, ça fait une foi vide, une foi sans œuvre. Alors, si les gens croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont avancés, et là, à ce moment-là, ils se mettent dans une vie qui est complètement en désobéissance à Christ, et ils ont la prétention qu'ils sont descendus une fois dans une campagne de Billy Graham, qu'ils sont sauvés. Et selon les estimations même de Billy Graham et de son organisation, il semblerait que lui-même estime que 2% de ceux qui descendent en haut sont des véritables sauvés. Maintenant, sur ces 2%, combien sont des véritables? Ça, c'est une autre question. Et c'est une doctrine qui glorifie l'homme énormément. Alors, c'est une doctrine qui met Dieu à la porte, qui met l'homme sur le trône. C'est pas les arguments humains qu'on va faire, on va les regarder. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. On va les nommer. Et après, on va les prendre un par un on va regarder si ce qu'ils disent, ça, si ça a du sens, puis si on si on peut pas... Alors, ce qu'ils disent, je vais vous les nommer, après on va y expliquer. La première, ils disent, la prédestination, c'est du fatalisme. On sait ce que c'est du fatalisme, on va regarder ça. Alors que la prédestination, autrement dit, des robots. Si c'est le même, on est des robots. Alors c'est ça, en gros, là, le fatalisme, c'est ça. C'est que, à cause que Dieu a tout décrété, il considère qu'on est des robots, et qu'on n'a plus de responsabilité, et que et tout ce qui s'ensuit. La deuxième chose, ils disent, la prédestination, c'est inconsistant avec le libre arbitre et la responsabilité morale de l'homme. Et si c'est le même, c'est Dieu qui choisit, alors l'homme, il n'est pas responsable, alors l'homme, il n'y a pas de libre arbitre, puis c'est dans l'ordre des arguments qu'ils vont vous apporter. La troisième, ils disent que la prédestination, ça ferait de Dieu l'auteur du péché. Alors, si tu prends des livres comme j'ai ici, là, The Other Side of Calvinism, là, il va défendre, il va accuser justement les calvinistes de faire de Dieu l'auteur du péché. Jamais une personne convaincue de l'étude de la grâce n'a avancé une telle idée. C'est vraiment dans leur tête à eux autres, c'est vraiment dans leur argumentation. J'ai jamais vu un seul chrétien calviniste avancer cette idée-là. Jamais. Je pense, je le mettrai au défi de trouver un écrit de calviniste qui est ici. C'est justement entre les deux oreilles. La quatrième, c'est que la prédestination, ça découragerait l'utilisation de moyens ou l'effort. Autrement dit, ils disent, mais si tout est prédestiné, que ça donne d'aller en mission, que ça donne, tout est fait d'avance, alors là, on ne peut nous battre pour rien, faisons pas d'effort, utilisons pas des moyens, Dieu a tout décidé d'avance. Alors, c'est une autre affaire qu'on va voir tout à l'heure qui est fausse. La cinquième idée, c'est qu'ils disent la prédestination, ça présente Dieu comme étant partial ou comme étant faisant de l'acception de personne. On sait que ça veut dire l'acception de personne, c'est quelqu'un de partial, c'est qui on peut dire par exemple quelqu'un qui va être injuste pour élever quelqu'un. Mais on va voir la partialité ou l'acception de personne. Dieu n'a jamais été. La Bible elle-même dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Alors, quand la parole le dit, là, je me demande comment ils peuvent nous accuser de dire qu'on fait que Dieu est partial. Dieu n'est pas partial. Pas partial dans le sens d'être injuste. Il peut être partial, on va voir dans quel sens. Alors, je vais vous le dire, je vais donner un exemple. Comment ça se fait que moi, je suis venu au monde avec une certaine intelligence en pleine santé, alors qu'il y a une autre personne ici à Québec qui peut être sauvée aussi, que lui peut être un infirme, il est aveugle puis il est sourd. C'est une forme de partialité. Mais Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de ses créatures. S'il a décidé de le créer comme ça, c'est son affaire. Il n'y a pas d'affaire à questionner les voies de Dieu. Alors, mais eux autres, ils veulent utiliser le mot partial dans le sens de injuste. Et on va voir que Dieu n'est pas injuste. Pourquoi qu'on est riche aux États-Unis et en Amérique du Nord, puis que dans certains pays, ils n'ont même pas de quoi manger? Dieu te contrôle. Dieu sait qu'en Éthiopie, il y a des gens qui crèvent de faim. C'est Dieu n'a pas accordé les mêmes privilèges ni aux individus, ni aux nations. Le fait qu'on soit venu au monde en Amérique du Nord, qu'on soit venu au monde dans un pays démocratique, dans un pays libre, ou que je ne sois pas venu au monde dans un pays de dictature, quelqu'un pourrait dire, c'est injuste que moi je suis venu au monde, par exemple, ici au Québec, et qu'un autre soit venu au monde en Haïti, alors que c'est une grosse dictature, que les gens crèvent de faim, qui sont tous malades, puis ils n'ont pas d'éducation, etc. Alors, c'est ça qu'on va voir. La souveraineté de Dieu s'exerce dans tous les domaines. On n'a pas questionné sa souveraineté. Dieu n'est pas injuste. S'il y a des différences comme ça entre les pays, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est les êtres humains, par leur péché, qui maintiennent leur structure de façon à encourager ces choses-là. Donc, Dieu n'est pas partial, mais eux prétendent que les doctrines de la grâce présenteraient Dieu comme étant partial. La sixième, c'est qu'ils disent que la prédestination découragerait la bonne moralité. Autrement dit, l'idée, c'est qu'ils disent, si Dieu vous a déterminé comme étant des élus, après que tu sais que tu vas être un élu, tu sais que tu es sauvé, ben, tu vas peut-être amener une vie de désordre, parce que sachant que tu es sauvé, que tu ne perdras jamais ton salut, donc tu vas vivre. Alors, on a vu la semaine passée que Dieu ne nous a pas créés en Jésus-Christ pour qu'on fasse des vies de désordre après, des vies de dissolution. Il nous a créés pour des bonnes œuvres, puis il nous a créés pour être saints, être ressemblants à son image. Alors, on ne peut pas être sauvé puis dire « Ah, oh, maintenant, je suis sauvé, waouh, ce que je pense, ouais, tu sais, mouvement là.
Ouais. »
Alors, la prédestination présente aussi, ils nous disent que les doctrines de la grâce présenteraient l'offre du salut comme étant non sincère. D'ici, c'est le même, quand tu prêches, puis que tu demandes aux gens de venir au salut, de venir à Christ pour le pardon de leurs péchés, c'est qu'ils disent que ton chose n'est pas sincère, parce que tu sais d'avance qu'il y en a qui n'accepteront pas, puis tu leur présentes le salut comme étant accessible à tous. Si tu le présentes comme du monde, tu dis, le Seigneur a payé les péchés, comme ça dit dans « Christ came to save sinners », il n'a pas dit quel sinner, il n'a pas dit quel pécheur qui est venu pour sauver. Mais les Écritures nous enseignent qu'il est venu pour sauver ses élus. Alors, quand on prêche le salut, on ne peut pas dire, on peut dire venez à Christ pour recevoir vos péchés. Mais s'ils ne viennent pas, c'est simplement leur propre décision, leur propre volonté. Et le dernier, le huitième point, ils disent que la prédestination, ça suppose la prédestination des hommes perdus aux peines éternelles. Alors, ça, c'est leur principal argument. Je ne dis pas que j'ai vidé la liste des arguments possibles. C'est sûrement qu'ils en ont plus que ça. Mais ça, c'est parmi les principaux que tu vas retrouver dans la majorité des livres qui parlent contre le calvinisme. Et ça va revenir d'une façon systématique et régulière. Mais il y en a sans doute d'autres qui sont encore des arguments humains. Mais ceux-là, c'est comme le mainline, comme on dit en anglais. Donc, on va recommencer, on va reprendre une par une, puis on va regarder si ça a de la luce qu'ils disent. La prédestination serait du fatalisme. Quelle est l'idée principale du fatalisme? Les hindous font comme ça. L'idée essentielle du fatalisme, c'est l'absolue certitude de tous les événements futurs. Mais, il y a une différence entre le fatalisme et la prédestination. Quelle est cette différence? Le fatalisme, il n'y a pas de direction dans cet déroulement certain des événements futurs. Deuxième chose, c'est ce qu'on pourrait appeler une nécessité aveugle. Ça se déroule, puis il n'y a rien pour empêcher ça. La troisième chose, c'est attribué à une force inconnue et irrésistible, qui n'est pas une personne. Alors, ils vont croire, pas nécessairement, je dis les... les hindous, je crois que oui. Mais il y a certains qui vont croire à une forme de fatalisme, mais où ils vont attribuer à un dieu, mais un faux dieu. Mais il y a ceux qui vont l'attribuer à une force inconnue et irrésistible. Les hindous sont comme ça. C'est une force de l'univers, puis tout se déroule comme ça, parce qu'il faut que ça se déroule comme ça, puis rien à faire. Alors, fataliste, ça veut dire rien à faire. Il faut laisser les choses arriver comme ça. On ne peut pas changer ni les structures sociales, ni notre destinée personnelle. On ne peut rien faire. Alors, ils disent que la liberté est la responsabilité de l'homme dans le fatalisme, que l'homme n'a aucun choix. Ça dit aussi que les actes de l'homme sont au-delà de son contrôle. Autrement dit, en anglais, appelle ça « no self-determination ». Autrement dit, qu'on n'aurait aucun pouvoir, aucune préhension sur le déroulement de notre vie. Alors, ça va en contradiction avec la responsabilité qui est décrite dans les Écritures. Et aussi, ça laisse pas de place pour ce qu'on pourrait dire la moralité. Pour la simple et bonne raison, je me souviens d'avoir entendu un argument de quelqu'un qui était embarqué dans le Nouvel Âge par de sa tête, et qui disait, ils vont embarquer avec la fameuse loi du karma. Autrement dit, ils vont dire que si aujourd'hui tu es un voleur, ou si tu es un meurtrier, c'est parce que dans une vie antérieure, tu as tué quelqu'un, puis aujourd'hui, il faut que tu payes pour d'une certaine manière. Alors, c'est vraiment, ça ne laisse pas de place pour la moralité, parce que quelqu'un qui croit ça, il est en train de dire que tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème, c'est bien comme ça, parce qu'il est en train de payer ce qu'il a fait dans des vies antérieures. Alors, ça ne laisse pas de place pour la moralité. Autrement dit, laissons tout se dérouler. Soyons parfaitement tolérant à tous les péchés, sous toutes ses formes, parce que la personne qui exprime son péché sous cette forme-là, c'est parce qu'elle a fait quelque chose dans une vie antérieure, puis là, elle est en train de payer pour. Éventuellement, parce qu'à chaque fois qu'elle paye pour, comme ça, il y a une petite corde qui se coupe. Puis éventuellement, ils vont arriver à la libération totale, le karma, la libération du karma, et là, ils vont se refondre dans le grand énergie universelle. C'est à peu près l'idée, là, en gros, là, qui prêche. Alors, c'est ça, le nirvana. Alors, c'est ça, leur idée du... alors, ça laisse pas de place pour la moralité. Ça laisse pas de place non plus pour la religion. Une religion d'amour, de miséricorde, de sainteté, de justice, de sagesse. Donc, la fin du fatalisme, c'est quoi? Le désespoir, le scepticisme et le découragement. Le péché, dans le fatalisme, là, vraiment, ça fait de Dieu l'auteur du péché. Ou une force irrésistible, appelez comme tu voudras, mais ça fait de Dieu l'auteur du péché. La prière, la place de la prière dans le fatalisme, c'est, ça n'a pas de place parce que c'est non nécessaire et ça ne peut pas rien changer. Alors que dans la prédestination, la prière peut changer quelque chose dans le déroulement. Mais Dieu l'avait prévu d'avance. Alors, ça ne change rien dans le déroulement du quotidien, parce que Dieu l'avait prévu d'avance. Mais si je ne prie pas, un fataliste ne priera pas parce qu'il croit que ça ne va rien changer. Tandis que le chrétien, il ne s'adresse pas à une force inconnue, il s'adresse à un Dieu d'amour. Il s'adresse à une histoire qui a une direction. C'est parti d'un endroit. La différence entre l'histoire des francs-maçons, on dit que les francs-maçons ont une histoire, un sens de l'histoire qui est cyclique en cinq grandes phases et que ça revient tout le temps. La notion chrétienne de l'histoire, c'est unidirectionnel. Ça a une direction et ça se rend dans un endroit précis et cet endroit-là, c'est la gloire de Dieu. Les choses sont faites pour la gloire de Dieu. Et la différence essentielle entre le fatalisme et la prédestination, c'est vraiment l'idée que c'est un Dieu d'amour dans la prédestination, un Dieu personnel et un Dieu d'amour, tandis que eux, c'est une force aveugle, inconsciente, une force qui fait simplement dérouler son tapis, puis il n'y a rien qui va l'arrêter. Alors, la réponse à l'objection, on pourrait aller voir des réponses scripturaires. J'avais noté ici que dans le livre de Lorraine Bettner, qui s'appelle « The Reformed Doctrine of Predestination », à la page 18 et 19, et à la page de la page 26 à 29, il donne toute une série de versets bibliques qui vient défaire ces choses-là. On ne le fera pas ce soir. Premièrement, je pense que ce livre-là, je ne me trompe pas, je pense que je l'ai donné à quelqu'un. Je l'ai donné à quelqu'un. Oui, mais je pense que je l'ai donné à quelqu'un. Je pense que je l'ai donné à... En tout cas, je l'ai donné à quelqu'un. Alors, l'idée essentielle là-dedans, c'est qu'on retienne que des réponses bibliques au fait qu'on nous accuse de fatalisme à cause qu'on prêche la prédestination selon les Écritures, c'est complètement faux. Et il y a beaucoup de versets qui démontrent que c'est faux. Alors, la prédestination, l'idée essentielle de la prédestination, contrairement à l'absolue certitude, c'est encore l'absolue certitude de tous les événements futurs, mais la principale différence, c'est qu'il y a ça une direction. On a dit tout à l'heure, la gloire de Dieu et le bien-être de son peuple. On a dit dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu dit qu'il a tout fait pour sa gloire, mais il a dit aussi qu'au niveau des hommes, des élus, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, tout ce qui arrive sur la terre, c'est pour le bien de ses élus. Et la direction de la prédestination, c'est aussi le fait que c'est dirigé par un Dieu qui est infiniment bon, sage, saint, et qui a tout décrété. Alors, la différence, c'est que vraiment, c'est dans la sainteté, la sagesse, l'intelligence, et tous les autres attributs de Dieu. Et c'est un Dieu personnel et un Dieu d'amour. Donc, c'est une différence fondamentale et vraiment essentielle. Alors, la liberté de l'homme dans la prédestination et sa responsabilité demeurent, tandis que dans le fatalisme, la responsabilité n'est plus là. Parce que Dieu a préservé la responsabilité de l'homme, il l'a même décrété, sa responsabilité et sa liberté. Et c'est une doctrine dans la prédestination qui laisse de la place pour la moralité. parce que la parole de Dieu est là pour nous donner, pour donner une place à la moralité. Et c'est aussi une doctrine qui laisse la place pour la religion. Une religion, comme on l'a dit tout à l'heure, d'amour, de miséricorde, de sainteté, de justice et de sagesse. Maintenant, la fin de la prédestination, c'est vraiment la gloire de Dieu, l'avancement de son royaume, et aussi une assurance inébranlable. Le fait qu'on sache que tout se déroule selon les plans et les décrets de Dieu, que tout est sous son contrôle absolu, ça vient nous rassurer. Moi, personnellement, je sais qu'avant, j'étais un inquiet, j'avais peur des guerres atomiques, de tout ce qui se passe sur la Terre. On voit ça, ça nous fait peur. Même qu'il va venir un temps où les hommes vont être morts de terreur. Mais qu'est-ce qui nous rassure, nous, les chrétiens, quand on voit tout ça se passer? Les Illuminati, les écoutes téléphoniques, les grosses balles de golf qu'on a vues sur les films au jour. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui nous rassure dans ça? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne sait pas que le Seigneur est au contrôle, puis qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle, le découragement total peut le prendre, de voir que, comment les hommes sont méchants et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour prendre le contrôle du globe, au point de vue politique, au point de vue économique, à tous les niveaux, au point de vue du contrôle de l'individu. C'est terrorisant. C'est vraiment terrorisant. Qu'est-ce qui nous différencie d'un païen? Un païen qui a la même conscience que nous, là, sur ces événements-là, parce qu'il lit des journaux, parce qu'il lit des livres, etc. Lui, il prend les kettles, comme on dit en anglais. Il a peur. Mais il a raison d'avoir peur, puis il a raison d'être angoissé. Qu'est-ce qui fait la différence, nous? On peut connaître des petits moments d'angoisse. Mais à un moment donné, on se retourne vers Dieu, on sait que Dieu est au contrôle. Et que rien ne va arriver que Dieu n'a pas décrété. Alors, c'est ça qui fait la principale différence. Maintenant, le péché dans la prédestination, la différence, c'est que Dieu permet le péché, mais il n'en est pas la cause. La différence avec la fataliste, qui est une différence fondamentale. La prière dans la prédestination, c'est inclus, le concept de prière est inclus. Dieu nous demande de prier. Alors, le fait qu'il nous demande de le faire, c'est parce que dans sa souveraineté, dans ses décrets, il avait prévu que ses enfants prieraient pour les choses. Et les choses vont s'être modifiées en conséquence. Et donc, la différence essentielle, c'est vraiment que nous, on a un Dieu d'amour et un être personnel qui dirige toutes les choses, tandis que le fatalisme, c'est vraiment une force inconnue. Et ça n'a rien à voir, le fatalisme, avec les doctrines de la grâce. Et ça n'a rien à voir avec la doctrine de prédestination. La deuxième idée, ils disent que la prédestination serait inconsistante avec le libre arbitre et la responsabilité de l'homme. Autrement dit, l'idée principale, leur axiome de départ, en géométrie on utilise ça, un axiome de départ, c'est une vérité qu'on n'est pas capable de démontrer, mais il faut partir avec quelque chose. Alors, leur axiome de départ, c'est ceci. L'inhabilité limite l'obligation. Autrement dit, ils disent, Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire quelque chose dont il n'est pas capable. Ça, c'est leur argument, ce qu'on appelle l'axiome de base. Et à partir de ça, là, ils vont tous développer leur affaire pour se dire que l'homme, si c'est comme ça que Dieu est prédestiné toute chose, que l'homme ne peut pas être responsable. Parce que Dieu, ils disent que Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont il n'est pas capable. Ils disent, regarde, si Dieu dit « repens-toi », c'est parce que tu es capable de te repentir. Là, c'est la raison qui marche. C'est la raison qui marche. Ils disent, si Dieu te demande de te repentir, c'est parce que tu es capable de le faire. Mais est-ce que leur action de base est vraie? Non, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu, quand Dieu a mis Adam sur la terre, il avait la capacité de vivre selon. Et s'il l'a perdu, c'est ça, par son propre choix, par sa propre volonté, par sa propre décision. Et Romains 5,12 nous dit qu'on était en lui faisant le même choix. De quelle manière? On l'a déjà dit, je ne sais pas, puis je ne comprends pas comment. Comment la parole nous dit qu'on était en lui et qu'on prenait la même décision que lui? Alors, Dieu nous c'est un peu comme l'exemple, on va prendre un exemple, c'est encore boiteux, tout exemple est boiteux. Prends un exemple. Un jeune s'achète un char de 30 000 piastres. un char sport rouge qui s'en va 180 km à l'heure. Il part sur l'autoroute avec, bang! Il a scrap au complet, puis lui devient invalide. Est-ce que la banque va lui dire qu'il n'est plus capable de payer, donc on dit paye plus? Son inhabilité vient de sa propre folie. Alors, Dieu demande aux pécheurs de se repentir sous la même base qu'une banque demanderait à un être humain de continuer à payer une chose qui est brûlée, une chose qui est finie. Ça, c'est un exemple, on pourrait en prendre d'autres, là. Un exemple en particulier. Alors, l'homme avait l'habilité d'obéir à Dieu, il l'a perdu par sa propre faute, et nous, on était en Adam, on l'a perdu par notre propre faute. Si Dieu continue de nous demander quelque chose qu'on avait, qu'on a perdu par notre propre faute, Dieu peut continuer de nous le demander. La même chose qu'une banque va dire à quelqu'un, pas à cause de ta maison est brûlée que tu ne dois pas ton hypothèque. S'il n'est pas assuré, le gars, là, c'est pas assuré, là. En tout cas, la banque va dire, oh ben, ok, on comprend, là, ta maison est brûlée. Là, super, nous, on est des bons petits gars, on va te laisser aller. Tu m'as emprunté 150 000. Oui, rembourse. Elle est brûlée, tu n'es pas assuré, c'est pas ton problème. Paye-moi. Alors, Dieu, la même chose. Puis encore plus, parce que Dieu peut demander à sa créature énormément plus qu'un homme irresponsable. Premièrement, le décret de Dieu concernant le péché n'est pas causal, on pourrait dire, mais permissif, directif, préventif et déterminatif. Il y a beaucoup de mots. Alors, Dieu permet le péché, permissif, directif, quand un péché est commis, ça a une direction, ça a un sens. Dieu peut, et on le pourrait montrer des exemples bibliques de ça, souvent le Seigneur va se servir du péché des hommes. On en prend un exemple biblique dans la Genèse. Il a permis que Joseph soit emmené en Égypte par le péché de ses frères. Et quelle était la direction de la permission de Dieu dans l'exécution de ce péché-là, c'était qu'éventuellement son peuple irait en Égypte, il y aurait une famine terrible, il serait obligé d'aller chercher du blé en Égypte. Dans le fond, le but que Dieu avait permis que ce péché-là arrive, ça avait la direction. Alors, pour Dieu, le péché, c'est permissif, directif. Des fois, ça fait préventif. Dieu peut permettre qu'un péché arrive dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre pour venir prévenir l'éruption du péché dans ta propre vie. Ça, c'est juste Dieu capable de faire des choses comme ça. Et l'autre déterminatif, Dieu peut permettre aussi que le péché puisse déterminer quelque chose dans ta propre vie. Ça peut arriver, par exemple, qu'on soit témoin de quelque chose et que cette chose-là ait une influence marquante dans le déroulement de notre propre vie. Puis qu'est-ce que ce déroulement-là, ça peut être un péché. On prend par exemple, on prend un exemple de ça. Disons un missionnaire qui a vu un de ses confrères se faire pogner parce qu'il était imprudent à aller rencontrer des femmes pour leur donner des conseils spirituels étant seul. Puis ils sont 10 ou 12 dans un pays. Puis ils se connaissent tous les missionnaires. Alors lui, son imprudence, son péché d'imprudence, fait en sorte qu'il y a un scandale qu'à un moment donné, il finit par éclabousser lui. Mais les autres, à cause du péché de lui, vont avoir tellement peur d'aller voir une femme seule à l'avenir, qu'ils vont dire « Oh! » Fait que le péché de l'autre vont finir par déterminer leur propre comportement à l'avenir. Alors, c'est ça qui fait la différence, pourquoi l'homme est responsable. Aussi, c'est la loi de Dieu et non son décret qui fixe les devoirs et responsabilités de l'homme. C'est pas Dieu qui a déterminé d'avance que tu tuerais quelqu'un. C'est sûr qu'il savait, mais ça fixe, ce qui fixe les responsabilités de l'homme, c'est vraiment la loi de Dieu. Ça fait penser à l'exemple qu'on avait dit, la personne qui était dans le milieu calviniste anglais, qui se présente devant le juge, puis il dit si j'ai volé, c'est parce que Dieu l'avait décrété de toute éternité. Ben, le juge lui a répondu, ben, si moi je te condamne à 10 ans de prison, c'est parce que Dieu l'avait déterminé de toute éternité. Alors, il voulait excuser sa responsabilité en mettant ça sur la faute de Dieu. Si j'ai péché, c'est parce que Dieu a voulu que je pêche. Non. Qu'est-ce qui fait qui détermine ta responsabilité? C'est la loi de Dieu et non pas le décret de Dieu. Et qu'est-ce qui rend le péché responsable? C'est le motif qui est en arrière des péchés. Jean 3, 19. La cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont mieux ou préféré. Dans l'autre version, c'est qu'ils ont préféré ou mieux aimé, c'est encore pire. Ils ont aimé les ténèbres. Préféré, au moins, c'est comme au moins ils ont vu le choix entre les deux. Mais aimer, c'est comme si on avait mis leur énergie du bord du négatif. Donc, le motif derrière le péché, ça rend l'homme responsable. Ils ont préféré les ténèbres. Et aussi, ce que j'ai mentionné tout à l'heure dans Romains 5, 12, qui dit que chaque homme a péché en Adam. Et ça, c'est un verset que si tu commences à examiner les commentaires sur Romains, si tu vas chercher différentes tendances, disons, de tendance néo-évangélique, tendance de calviniste, tu vas voir que la manière dont on explique ce verset-là, c'est pas tout le monde qui... il y en a qui vont comme exclure la possibilité que l'homme pouvait être en Adam. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, c'est la semence. Puis il y a toutes sortes de... Le spectre est grand. Alors, la seule façon de l'accepter, c'est que la Bible dit qu'on était en lui, et qu'on a péché, car tous ont péché. Romains 5, 12, on va juste le regarder pour le fun. Ça nous dit qu'on était là. De quelque façon, je ne peux pas l'expliquer. Puis les théologiens qui s'essayent, je pense que dans le fond, ils font plus dire des bêtises que d'autres choses. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et le temps du verbe est un aoriste. Et c'est ça vient nous dire que l'action s'est faite dans le passé. Parce que tous, les hommes, ont péché en Adam. Comment? Je ne sais pas. Alors, il est personnellement blâmé pour sa perte d'habilité. C'est lui-même qui, à quelque part, est venu perdre son habilité, et ce n'est pas aucunement la faute de Dieu. Et la responsabilité aussi dépend de la connaissance, et ça, on a ça dans Romains 1, versets 19 à 20. Et ça aussi, c'est une idée moderne aussi qui circule beaucoup dans les milieux néo-évangéliques. Certains théologiens modernes vont avancer l'idée qu'aujourd'hui, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ et qui sont dans les pays, dans le fin fond de l'Afrique, dans le fin fond de n'importe quel continent, sont pas coupables parce qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Et n'ayant jamais entendu l'Évangile, ils vont être sauvés. C'est complètement faux. Romains 1, versets 19 et 20 nous dit que les hommes avaient plusieurs choses. Il y avait la création, il y avait la conscience et il y avait la loi. Donc la création, Romains 1, 19 et 20, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Il ne faut pas oublier que le verbe manifester, ça veut dire frapper dans la main. Hein. C'est vraiment là, c'est d'une évidence qu'on ne peut pas nier. Dieu a rendu, ça s'est manifesté, il s'est manifesté lui-même, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Tu es en train de dire, ça se voit à l'œil nu. Tu as juste à t'ouvrir les deux yeux, les deux bobos, puis tu vas voir ce qui se passe, que Dieu est là. Mmh. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ici, là, il y a un mot qui est important. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit-tu qu'ils sont excusables parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile? De sorte qu'ils sont inexcusables.
Moi, Dieu le dit, c'est bien rigolo.
That's it. Romains 2, verset 12 à 15, on a un autre élément dont les hommes devraient se servir pour rendre leur devoir à Dieu, c'est celui de la conscience. 12 à 15, car tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Autrement dit, ça veut dire que les païens, leur conscience leur dit ce qui est bien, ce qui est faux. Quand ils écoutent ce qui est bien, ils font correct. C'est comme si Dieu avait inscrit la loi dans le cœur de l'homme. Et quand l'homme fait du bien ou du mal, il sait très bien. Alors, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. C'est Dieu qui a inscrit ces choses-là. Je me souviens, quand j'allais au cégep, on disait du grand philosophe français Jean-Paul Sartre, tous ses admirateurs attendaient le livre qu'il avait promis d'écrire, le livre qui justifierait, qui essaierait d'expliquer comment l'homme avait une conscience. Comment il faisait pour déterminer ce qui est bien et ce qui est faux. C'est drôle, hein? Il ne l'a jamais produit. Parce que si tu ne mets pas un absolu, si tu ne mets pas un absolu, tu n'es pas capable de déterminer si quelque chose est bien ou mal. Si c'est les hommes qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal, puis si toi, tu dis qu'une affaire est bien, puis si moi, je dis que c'est mal, puis qui va avoir raison si on n'a pas un absolu qui vient trancher? Alors, son système d'essayer de monter un système de morale typiquement juste au niveau des hommes, ça ne peut pas tenir debout parce que ça va tomber. D'où vient les fameuses, en philosophie, la fameuse théorie du surhomme. Il y en a des hommes qui se pensent tellement fins qui se disent que moi, je suis au-dessus de l'humanité, et c'est moi qui détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis si moi, je détermine que tu es un homme, c'est bien, je suis un surhomme, et c'est là que l'homme se fait Dieu. Ça, c'est la théorie de, je me souviens plus quel philosophe allemand, là, qui était bien adulé durant le temps de la guerre, je me souviens plus de son nom, là. Je vois encore sa face, et d'ailleurs, il est venu fou. Il est mort fou, en français. Alors, un système de moralité où il n'y a pas d'absolu, et où cet absolu-là n'est pas Dieu lui-même en personne, et non pas un faux Dieu, ça ne peut pas tenir. Parce que Dieu, si c'est le vrai Dieu, il va avoir des lois qui vont être correctes, justes, et qui va pouvoir déterminer un comportement aux hommes. Qu'est-ce qui me fait dire? En plus, Dieu dit qu'il l'a mis dans notre cœur. Non seulement il écrit dans un livre la loi, ici, la loi morale, qui est écrite dans les 10 commandements de Dieu, mais il l'écrit dans le cœur des hommes. Alors, quand un homme, là, n'importe qui, du fond de l'Afrique ou du fond de la Chine, là, il n'a jamais entendu parler de l'évangile de Jésus de sa vie, là. Quand il vole, il sait très bien qu'il fait mal. Il sait très, très bien pourquoi, d'ailleurs, il se cache. Quand on fait quelque chose de bien, on ne se cache pas. Pourquoi quelqu'un va coucher avec la femme du voisin, il fait sa cachette la nuit? Pourquoi les pécheurs veulent faire le plupart de leurs péchés la nuit? Parce qu'ils ne sont pas vus. Parce que la nuit, personne ne te voit. Ils pensent que personne ne te voit. Mais aux yeux de Dieu, c'est comme si tu avais un gros spotlight sur toi. Puis là, c'est un gros spotlight, Dieu lumière. Alors, dans ta petite nuit, si tu penses que tu trompes le Seigneur, tu es complètement déconnecté de toute réalité spirituelle. C'est pas compliqué, ça. Alors, la réponse à ça, c'est que l'homme est libre d'agir, mais en harmonie avec sa nature. Puis quelle est sa nature depuis la chute?
Pécheresse.
Alors, tu es libre, et tu es libre de pécher. Alors, quand tu es un pécheur, puis tu es une personne qui n'est pas régénérée, il y a une grande liberté, mais il y a juste le choix entre les péchés. La nature d'un chien, c'est d'aboyer. La nature d'un pécheur, c'est de pécher. Parce que le fait de pécher, ce n'est pas dû à une contrainte extérieure, mais c'est vraiment sa volonté est enchaînée au mal. Et il ne peut pas faire autrement que de pécher parce qu'il est pécheur et tout est à l'intérieur de son cœur. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, tout sort du cœur, les adultères, les volés, tout sort de l'intérieur de son être. OK, la prédestination ferait de Dieu l'auteur du péché. Moi, j'ai une façon bien simple de régler ça. Jacques 1,13. Puis ça va être réglé après ça. On n'a même plus loin d'en faire. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Ne peut être tenté par le mal. Verset qu'il pourrait utiliser pour Jésus-Christ, pour son impeccabilité.
Mm-hmm.
Jésus est Dieu. Mm-hmm. Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors, si Dieu ne peut pas être tenté par le mal, on ne peut pas faire de lui l'auteur. Mais il y a une multitude de versets qu'on pourrait utiliser. Dieu est saint. Trois fois saint, d'une sainteté, d'une pureté absolue, l'œil humain pécheur qu'il verrait crèverait sur le champ. Il verrait Dieu sans être préparé, sans que Dieu lui fasse un gage de préparer dans sa présence. C'est exactement le même principe que le roi avec Esther qu'on a vu dans le livre d'Esther. Si tu n'as pas le sceptre d'or, tu crèves de là. OK. Le péché, là, ça se manifeste que par la volonté permissive de Dieu. Dieu le fait avec un but précis qui est mentionné dans les Écritures pour sa propre gloire. Et le péché est inclus dans son plan général qu'on appelle les décrets. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile à expliquer, qui n'est pas facile. Tous ceux, je me souviens, à un moment donné, Philippe, il était venu une fois à l'école biblique, puis il voulait avoir le livre de Reformed Doctrine of Predestination, parce que dans sa tête, il y avait un problème avec le problème du mal. D'où ça vient, pourquoi, etc., etc. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est d'étudier ce que les Écritures disent là-dessus, d'où ça vient. La Bible l'explique en personne. Ça vient, la première source, c'est Satan. Puis, à cause de sa chute, a voulu entraîner d'autres à sa suite, etc. Donc, D, la prédestination découragerait l'utilisation de moyens ou l'effort chrétien. L'effort, c'est complètement faux. On est lié à l'utilisation de moyens de grâce par le commandement de Dieu. On va prendre par exemple Matthieu 28. Dieu aurait pu dire, quand il est parti, je vais m'en occuper moi-même d'aller chercher mes élus. Il a décidé de nous utiliser. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur de nous utiliser malgré qu'on ait des si pauvres instruments. Merci quand même de nous faire confiance à ce point-là. Il savait qu'on était pour obéir en partie. Matthieu 18 à 20, et Jésus s'approchant, leur parla, leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, dans l'évangélisation, le Seigneur a refusé. Restez donc sur vous, les petits, là. M'en occuper personnellement. M'en aller chercher, moi, là, puis je vais les allumer quelque part à l'heure. Non, il a voulu nous confier cette responsabilité-là, cette tâche-là, par amour pour nous. Alors, l'utilisation de moyens, c'est biblique. On prend l'exemple de Naaman, dans le Testament. Il part de Syrie, il s'en vient dans le pays de lequel, on dit? Je parle du prophète, là. Pays du prophète.
Élysée.
OK, le prophète, il s'en vient dans le pays d'Élysée. Et là, le prophète, il aurait pu dire, OK, que ta lèvre retombe. Il fallait retomber. Parce que quand Dieu est avec lui, il a dit de sauver ses foins dans le monde. Alors l'autre est insulté, c'est un moyen. Là. C'est ça qu'il s'attendait, qu'il était pour lui parler, il était pour lui toucher, il était pour faire ça d'une certaine manière. C'est peut-être un scénario dans sa tête. Donc il dit, si tu veux être guéri, sauve-toi ses frères le Jourdain, tu vas être pur. Il part choqué, je retourne dans mon pays, j'en ai un fleur, moi aussi chez nous. Pas besoin de me saucer là-dedans. Là, tu as dit, voyons, si tu avais demandé une grande chose, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne fais pas la petite affaire qui te demande? Tu sauves ses fois, puis il sort vivre. Alors, l'utilisation du moyen dans le plan de Dieu, c'est quelque chose qui est utilisé. Alors, les moyens sont rattachés à la foi. Les moyens, c'est quelque chose qui sont rattachés à la foi. Si je sème, je m'en vais en arrière, je sème des graines de carottes, je vais récolter des carottes. Un moyen, il y a une fin. Si je travaille, je vais avoir un salaire. Si je demande à Dieu, dit, demandez, vous recevrez. Si je cherche, je vais trouver. Alors, il y a des moyens. Si je veux enregistrer, il faut mettre un tape. Ça n'enregistre pas tout seul. Dieu veut, faut boire dans la vie, faut manger. Donc Dieu permet qu'on atteigne certaines fins en utilisant les moyens. Mais les moyens, autant dans les choses naturelles, pour les utiliser, autant dans les choses spirituelles, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Il a voulu que les gens viennent au monde spirituellement par la prédication de la parole. Alors il a voulu ça comme ça. Il aurait pu s'en occuper puis les allumer lui-même tout seul à travers les siècles, pour s'occuper de nous autres. Ça aurait été très bien comme ça. Mais il a décidé de le confier. Alors, une autre affaire qui vient parler aussi de l'instinct de l'homme lorsqu'il est complètement capable de faire quelque chose. On prend l'exemple d'un avion. Les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là ils s'en vont dans un avion, le courant, puis à un moment donné, ils voient que ça va mal, ça se marche chiqué, et là, ils vont mourir, là. Et là, qu'est-ce qu'ils font?
Mon Dieu, puis là, si tu me donnes la vie, je vais faire ça, puis si tu m'enlèves la vie, puis là, mes enfants, puis là.
Là, ils prient Dieu. Quand tu vois qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, là, ils veulent avoir le Père par la main. Puis aussitôt que l'avion atterrit, hop! Ah, on n'est pas mort. Ah, dans ça, je suis libre, je fais ce que je veux. Là, il oublie Dieu, il continue. Alors, il sait très bien qu'il y a certaines affaires qui sont complètement dehors de leur contrôle, mais dans des circonstances bien précises. Quand ils sont poignés, là, au pied du mur, ils sont sur le bord de crever, ils vont crier après le Seigneur. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui vraiment sont des véritables athées. Je suis certain que si on entendrait les prières secrètes des athées, on ferait peut-être un jour. Eux, ils seraient très honteux de le faire, parce que dans leur orgueil, il y a des sociétés athées, vous savez. Il y a des présidents là-dedans. Là, ils en font toute une histoire. Mais quand on les voit dans des états de détresse interne grande, il serait curieux que le Seigneur nous fasse entendre à haute voix ce qu'ils disent intérieurement. Moi, je me disais athée, il y a plusieurs années, avant d'être sauvé. Puis je me souviens, quand je traversais des périodes, là, je priais et je disais à Dieu, si tu existes, là, fais quelque chose, montre-toi, je veux te voir, je veux t'entendre. C'est une prière d'athée, ça? C'est fou, lié. Tu dis athée, ça le dit « est », c'est le mot négation, enlever Dieu. Dieu n'est pas là. Puis je priais quelqu'un qui n'est pas là. C'est un fou qui fait ça. Mais j'étais un fou aussi. C'est-à-dire, elle dit qu'avant d'être sauvé, on est des insensés. Le fou dit à son cœur, il a point de Dieu. Puis je disais, le fou disait, je disais à mon cœur, il a point de Dieu. Mais quand il était en état de détresse, je disais, montre-toi, fais quelque chose, veux te voir, tu sais. Fais quelque chose. Il y a des vrais athées, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Qui jamais ils ont voulu rien savoir de Dieu, à partir du début de leur vie jusqu'à la fin, et que jamais ils ont intercédé de quelque manière que ce soit, durant toute leur vie. Il y en a qui, avant de mourir par orgueil pour maintenir leur position, ils vont faire semblant, mais dans le fin fond de eux-mêmes, ils sont morts de terreur, j'en suis convaincu. Parce que Dieu appelle la mort dans ses Écritures, c'est Dieu qui le dit. Je crois bien plus à Dieu que les hommes. Dieu dit que la mort pour les hommes, c'est la terreur. Alors, l'homme qui va, je suis en paix. Il n'y a point de paix pour lui qui est hors de Dieu. C'est une fausse paix. C'est fauné. C'est du fauné Hollywood. OK, la prédestination présenterait Dieu comme étant partiale. Jacques 2, verset 1 à 9. Celle-là, c'est bonne. Si Dieu choisit un pécheur et il décide d'y donner la vie, cela, je l'ai entendu personnellement, un chrétien que je respecte, parlait de ça, il dit, voyons Marcel, tu penses à ce que tu dis? Tu qui est en train de faire de Dieu un injuste, dit pourquoi il donnera la vie spirituelle à toi et puis il ne la donnera pas à moi? C'est injuste. En plein l'argument. Il l'avait là, il était droit dedans, il n'a pas lu un livre de théologie. C'était naturel. Ça sortait de son propre cœur. C'est injuste. C'est comme si moi, je suis le gouverneur d'un État, puis je passe le plus gros pénitencier de l'État, il y a 10 000 détenus, puis j'ai le pouvoir de sortir qui je veux. Je pars devant une porte, puis je dis au directeur, ouvre-moi cette porte-là, puis je donne sa liberté. J'ai-tu fait une injustice aux gens? Mais non! Je dis au gars, c'est ça que j'ai dit, c'est exactement l'exemple que j'ai donné. Si j'ai le pouvoir de rentrer dans une prison et d'en faire sortir un, c'est une grâce que je lui fais. C'est un acte de miséricorde, un acte d'amour. Je n'aurai aucune injustice à toutes les autres qui ont été condamnés à cause de leur crime. Puis juste exactement la même chose. On a tous sous la condamnation. On est tous condamnés. Que Dieu passe dans la prison des pécheurs qui disent lui, puis elle, elle va être sauvée. On ne fait pas tort aux autres. On ne fait pas tort aux autres humains, puis lui. On fait le tour de la table, pas bien de genoux. OK. Je pense que j'ai nommé juste 3 sur 5 là, pour les besoins de ceux qui écoutent. OK. Une autre chose, c'est que le choix de Dieu, ce n'est pas déterminé, on l'a vu dans les autres leçons, par quoi que ce soit que Dieu avait vu d'avance dans les hommes. Alors, Dieu était-il impartial lorsque choisit son peuple Israël parmi toutes les nations du monde? Dieu était-il impartial lorsque choisit Abraham dans une nation, je ne me souviens plus de quelle nation il était, Ur en Chaldée, il était un Chaldéen. Est-ce que Dieu a été injuste envers les autres Chaldéens que de choisir?
Mais non, oui.
Okay. Est-ce que Dieu a été injuste parce qu'il a choisi Cyrus? Que Cyrus deviendrait son instrument? Regarde, on prend l'exemple qu'on a choisi tout à l'heure. On va aller sur le campus de l'Université Laval. Là. On va regarder l'origine des gens. Il y en a qui sont venus au monde, le père est riche. Ils sont venus au monde dans un pays où il n'y avait pas de dictature. Ils sont venus au monde, ils ont eu une éducation super, etc., etc. On parle d'un autre comme Marie. Je ne sais pas sa condition sociale dans son pays, mais regarde ce qu'elle a traversé comme épreuve. Nous, au Canada, on n'a jamais connu ça. On ne sait même pas de quoi qu'on parle quand on parle de ça. On a juste vu des images, puis on est horrifiés. Mais si on aurait fallu qu'on le voie de nos yeux, les images qui s'est passées dans ces pays-là, on ne serait pas capable de stander. Pas pour rien que des gens de ces milieux-là, ou des gens qui sont allés à la guerre, là, ils ont vu tellement d'horreurs là, que leur système nerveux est brisé pour la vie. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai jamais été au Vietnam, puis que j'ai ma santé mentale, puis j'ai ma santé physique? Puis qu'est-ce qui fait qu'un autre, aux États-Unis, peut être venu au monde riche, mais il est allé au Vietnam, puis il est revenu fou? Est-ce que Dieu est injuste pour ça? Les différences sociales, les différences économiques, les différences d'éducation. Les personnes qui se promènent dans Québec, qui se promènent dans les rues, ils n'ont pas une troisième année. Il y en a qui ne savent même pas lire. Alors, toi, il a fait de toi un universitaire. Est-ce que Dieu est injuste? Parce que toi, tu es un universitaire, puis un jour, tu vas gagner des gros salaires, puis lui, il est dans la rue, puis il ne sait pas lire. Il y a des différences comme ça qui partout sur la terre. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est injuste pour ça? Non. Dieu est partiel jusque dans un certain sens, parce que Dieu dit qu'il contrôle toutes nos circonstances. Alors pourquoi il permet qu'un certain chrétien soit presque millionnaire, puis qu'il permet que moi j'ai de la misère à nonger, je fais juste surnonger pour pas m'endetter? Est-ce que je peux dire que Dieu est injuste parce qu'il a donné 1 million à un chrétien qui est venu, qui a fait des affaires, puis que Dieu l'a béni, puis qu'il est venu riche? Dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Regarde, Job était riche, mais il est tombé pauvre. Mais il est tombé dans le péché de questionner la justice de Dieu, puis de questionner. Il a questionné Dieu, à un moment donné, au début, correct, mais à la fin, ce qu'on lit, comme on s'est étudié mercredi, à la fin, à un moment donné, il va sombrer. OK, alors, c'est sûr que Dieu a déterminé les richesses, autant personnelles que collectives, la pauvreté, la race qu'on viendra au monde, notre nationalité, l'époque dans laquelle on viendra au monde, nos dons naturels. Hein, des fois, tu regardes des personnes, là, qui ont des dons naturels, là. À qui c'est pas déjà arrivé d'entre nous d'être jaloux des dons de quelqu'un? Il y en a, là, tu regardes, là, tu dis, ah, ça, lui, si bon, ça, là-dedans. Tu leur regardes, là, on dirait que tout ce qu'il fait, puis toi, les affaires, tu n'es pas capable de faire, puis lui, il est habile. Puis nous autres, on est des vrais gauches, on dirait qu'on est les mains pleines de pouces. Mais pourquoi un habile, moi, pourrait dire Dieu, t'es pas juste, tu ne vas pas donner des mains qui sont habiles comme lui. Mais ensuite, lui est capable de se construire une main-là, moi je ne suis pas capable. Ou d'autres affaires. Pourquoi qu'il est bon en mécanique? Pourquoi qu'il est bon en électronique? Pourquoi qu'il est bon en musique? Dieu n'a pas donné des dons égaux à tout le monde. La preuve, c'est qu'il y en a qui, quand ils arrivent à la fin du secondaire, c'est le top qu'ils peuvent aller, c'est le top. Puis quand ils sont allés là, ils ont mis tous les efforts qu'ils pouvaient, ils ne pourraient pas étudier plus s'ils voudraient. Parce qu'ils sont comme topés. L'intelligence est topée. Il y en a d'autres, on dirait, qui débordent d'intelligence. On ne peut pas parler de partialité. On peut parler d'une certaine forme de partialité, mais ce n'est pas dans l'injustice. Jamais on peut parler d'une partialité de la part de Dieu qui s'exerce dans l'injustice. Comme ça dit, la partialité ne peut s'exercer que dans la sphère de la justice quant aux droits et aux privilèges et non dans la sphère de la grâce. Quand il est question de grâce, tout le monde mérite l'enfer. Que Dieu décide de ne pas nous envoyer en enfer, il ne fait pas de tort à personne, il ne fait pas aucune injustice à qui que ce soit. Pourquoi? Regarde, il y a de bons raisonnements. Pourquoi je dis que Dieu est injuste en ne sauvant pas une personne par sauvant l'autre? Les anges. As-tu déjà vu un être humain sans faire parce que Dieu n'accorde pas la grâce aux anges déchus? Les anges déchus sont tombés une fois, Dieu les a condamnés sans retour, de façon irréversible. Si on s'en fait parce que Dieu a décidé de ne pas pardonner à tous, on devrait s'en faire aussi pour les anges. On devrait être attristé que Dieu, pourtant Dieu n'a jamais, il n'y a aucun verset qui démontre que Dieu va faire la grâce aux anges déchus. On ne s'entend pas avec ça. Mais quand c'est le salut de nous autres, on traite des injustes. Alors c'est... Alors Dieu exerce, on pourrait dire, une certaine forme de partialité, si on entend par ça la distribution inégale entre les hommes de différentes choses, oui, mais jamais dans l'injustice. Jamais, jamais, jamais dans l'injustice. Maintenant que la prédestination découragerait la bonne moralité. Allons voir Éphésiens 1.4, on pourrait en avoir plusieurs. On va aller voir Éphésiens 1.4, il y en a un qui est particulièrement...
1.72.
Éphésiens 1.4. Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui par la charité. Romains 8, 29. Hey, c'est les versets, c'est fort, ça, là. Romains 8, 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Hey, c'est fort, il nous dit conforme. Si tu prends quelque chose, puis disons qu'on a un modèle, on fait une chaise versante, on a fait un super de belle. On dit, là, tous les autres que tu vas faire, tu vas les faire conformes à ce modèle-là. Tu vas prendre tes mesures, tu vas prendre la peinture, la qualité du bois, tout va être fait de manière exacte. Ici, Dieu dit qu'il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. T'imagines-tu? Il faut qu'on devienne conforme à Jésus-Christ. Comment on peut nous accuser que la prédestination découragerait la bonne moralité? On est en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire son travail. Dieu nous a dit qu'il nous a prédestinés à devenir comme ça. Romains 3, 31. Anéantissons-nous. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Au contraire, nous établissons la loi. Alors la loi a encore un rôle à jouer pour le croyant. C'est celui de lui montrer son péché. Celui de lui montrer les sévères exigences de Dieu. Je ne veux pas dire qu'après qu'on est sauvé, qu'on n'a plus absolument rien à voir avec la loi de Dieu, que ce soit dans la loi morale ou que ce soit... Je sais qu'il y en a qui disent ça, qu'on n'est plus sous la loi, mais je pense que c'est une fausse interprétation en disant qu'on n'est plus sous la loi, qu'on n'a plus rien à voir avec la loi. Les Écritures nous disent qu'il y a un usage légitime de la loi. Un usage illégitime, c'est de dire que tu pourrais être sauvé par l'obéissance à la loi, par les œuvres. Mais le fait de tenir compte de la loi pour ton salut, ça ne fait pas un usage illégitime de la loi. OK, donc les moyens, autant que la fin, ont été décrétés ou prédéterminés par Dieu. Et l'amour et la gratitude envers Dieu, c'est la plus forte et la plus permanente base pour la moralité. Maintenant, si on regarde les fruits du calvinisme, si on dit que les calvinistes, le calvinisme, ça nous emmène à ne pas avoir de moralité, maintenant, examinons si, historiquement, ceux qui ont été des personnes qui ont exprimé leur foi de cette façon-là, regardons l'ensemble de leur vie et regardons s'ils ont eu une foi qui se conforme aux Écritures ou non. Et moi, je m'envoie sur Internet, après midi, justement, j'allais voir des adresses où on donne toute une série de noms de personnes, de théologiens, de prédicateurs, de toutes sortes de chrétiens éminents. Et t'as tous des calvinistes et ils ont tous eu des vies très saintes, des vies exemplaires sur certains cas, des vies même très édifiantes dans certains cas. Moi, je veux dire, si je regarde la vie de John Gill, avec le travail qu'il a mis pour le Seigneur, c'est vraiment un exemple que je peux suivre personnellement sans aucun problème. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi, je n'ai pas encore l'audace de dire à quelqu'un dans une assemblée, soyez mes imitateurs. Parce que tu es rendu loin dans la sainteté quand tu dis, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alors, Paul, il n'avait pas peur de le dire parce qu'il était probablement un chrétien extrêmement spirituel. Il n'avait pas peur de dire aux autres qui étaient autour de lui, soyez, faites comme moi. Quand tu es rendu, tu peux dire, soyez mes imitateurs, c'est quand tu es rendu loin. Tu es rendu loin dans le Seigneur, tu n'as pas peur de dire aux autres, suivez-moi parce que moi, je suis Seigneur. Alors, si tu regardes l'histoire, l'ensemble de ces histoires-là, il y en a du monde qui ont travaillé pour le Seigneur. Si tu prends Spurgeon, si tu prends Gill, si tu prends énormément de chrétiens qui ont prêché, il y en a, c'est épouvantable. Tu lis leur histoire, tu te dis, comment ils ont eu le temps de tout faire? Spurgeon était particulièrement inspirant, même la première fois que j'ai lu, je me suis dit, bon. La première réaction, je me suis dit, je ne peux pas croire qu'un homme peut tout faire ça une journée. Il disait le nombre de lettres qu'il fallait qu'il réponde, le nombre de prédications qu'il faisait par année, le nombre d'œuvres qu'il présidait. Je pense qu'il y avait 65 ou 70 œuvres qui présidaient. Et même une touille ces journées, qui était malade. Alors, nous, quand on pense qu'on travaille pour le Seigneur, là, quand on se compare à ces géants-là, on est vraiment des minus, des petits minus, des petits nains. On est des petits nains. Mais je ne pense pas que le Seigneur nous demande d'être des petits nains. Le Seigneur peut prendre un petit nain comme on est, là, puis il peut faire de nous un grand chrétien. Qu'un jour, on pourra avoir assez de front pour dire, soyez mes imitateurs. Il ne faut pas avoir peur de viser haut que le Seigneur. Hein. Le Seigneur est capable de nous prendre un petit nain et de faire de nous un géant. Puis je pense que notre époque a besoin de gens, a besoin de personnes qui sont extraordinaires en Seigneur, justement pour qu'on ait des exemples vivants à suivre autour de nous. les puritains, les réformateurs, les huguenots, les... Il y en a plein. On peut citer William Carey. C'est plein. On pourrait en citer des milliers de noms. Alors, tu dis, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez leurs fruits. Il me semble que c'est pas trop dur à regarder quand ils ont une belle vie sainte, que tu les reconnais, parce que c'était des saints de Dieu. Qui est vos doigts, etc. Alors, Bettner dit, « The practical effect of a belief is the real test of its soundness. » Autrement dit, l'effet pratique d'une croyance va être le vrai test de sa vérité, de son authenticité. Si une croyance qu'on dit chrétienne ne produit pas des effets de sainteté, c'est ce qu'il dit. The practical effect of a belief is the real test of its soundness. Moi, je trouve ça très, très, très à point, à propos. Il mentionne aussi, à la page 280 de son livre, Lauren Bettner, que dans toute l'histoire des puritains, selon lui, je ne sais pas s'il a vérifié, mais il dit qu'il n'y a pas eu un seul cas de divorce dans toute l'histoire des puritains. Alors, ça démontre une chose, c'est que les puritains ne prenaient pas la foi chrétienne à la légère. C'était extraordinaire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vérifiable, mais en tout cas, il faut croire que les divorces devaient être extrêmement rares à cette époque-là. Et si on regarde aujourd'hui, chez les chrétiens, ça l'a... Alors, ça prouve une chose, c'est qu'on ne prend plus la vie chrétienne aussi au sérieux aujourd'hui qu'on la prenait dans le temps. Alors, moi, je trouve que ça fait exactement... ça produit exactement l'opposé de ce qu'ils nous accusent. Souvent, les accusations contre le système des doctrines de la grâce, ce qu'ils disent que ça fait, c'est exactement l'opposé. Ils vont dire que ça t'empêche d'évangéliser, c'est pas vrai. Ils vont dire que ça t'empêche d'être saint, ça t'empêche de ci, ça t'empêche de ça. En gros, la grosse majorité du temps, c'est faux. L'autre point, la prédestination présenterait l'offre du salut comme étant non sincère. L'argument, c'est on dit, le prédicateur qui s'en va dans la rue, puis qui dit que le salut est offert à tous, puis etc. Si tu le présentes comme ça, il y a moyen de dire la vérité, que Dieu choisit des hommes de toute éternité. Si tu dis la vérité selon les doctrines de la grâce, c'est sûr que ça va peut-être chatouiller les oreilles de plusieurs dans le groupe, mais tu vas prononcer la vérité. Tu ne leur diras pas que c'est le salut de tout le monde. Dieu choisit des êtres humains parmi les pécheurs à qui il va donner le salut. Si tu te présentes selon la doctrine du salut, d'ailleurs, les grands prédicateurs de la doctrine de la grâce, quand ils prêchaient, ils ne disaient pas aux foules, venez. S'ils disaient, ils avaient présenté le Seigneur dans sa souveraineté avant. Ils avaient présenté le Seigneur dans sa rédemption particulière avant. Si tu prêches tout le conseil de Dieu, c'est sûr, tu peux dire. Repentez-vous et la seule solution est en Christ, pointez-vous vers Christ, puis tu as raison de le dire. Tu as raison de les inviter. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont obéir pour autant? Ça, c'est notre affaire. Alors, ils disent que selon eux, le fait que Dieu sache d'avance c'est qui va être sauvé, qui va pas sauver, c'est comme si tu prêches, ça fait de ton offre une offre qui est non sincère. C'est complètement faux. Seul, je prends l'exemple des billes de 100$, c'est pas vu la petite. Tu t'en vas sur le coin de la rue à Montréal, puis tu te mets à Québec, puis tu te mets à distribuer des. Tu prends une pile de billets de 100, puis tiens-toi au coin de la rue Saint-Jean, là, puis essaye de distribuer des billets de 100. Au monde. Des vrais. Je te garantis qu'il va y avoir la grosse majorité qui vont les refuser. Est-ce que ça fait du billet un faux billet? Ton offre est sincère. Lui, il pense qu'il croche. Il pense que c'est une folie, il pense que c'est une joke. Ah ouais, on a distribué 100$, pour rien. Mais il va t'en garder, moi, je trouve pas, ça doit être une joke. Ça doit être un truc, ça. Alors, tu es prêt à lui donner, tu vas lui tendre, s'il le prend, tu sais, c'est à toi. Alors, Dieu te demande de te repentir, c'est seulement ta dépravité inhérente, totale, que c'est toi-même qui t'as décidé en Adam, qui fait que tu ne le prends pas. Bien simple. La prédestination supposerait la prédestination des hommes perdus aux peines éternelles. Le sort des hommes perdus, c'est pas un décret positif, mais une permission. Mais encore là, chez les calvinistes, il y a différentes positions là-dessus. On va rentrer dans une autre leçon sur les petites différences qui existent entre les différents groupes calvinistes, ce qu'on appelle les supralapsarianismes et les infra. Alors, c'est toutes des subtilités, mais c'est dans le fond, c'est plus des questions de logique, à savoir si c'est Dieu qui a déterminé ceux qui seraient perdus, ou si le Seigneur a déterminé ceux qui seraient sauvés à partir du moment que les hommes sont déjà tous perdus. En tout cas, et même les plus grands théologiens disent eux-mêmes, ceux qui ont bâti ces systèmes-là, disent eux-mêmes que c'est plus une question de logique que d'autre chose. Je lisais dans un document, un soir sur Internet, qui disait que dans la pensée de Dieu, les choses ne sont pas simultanées une après l'autre, mais dans la pensée de Dieu, tout est comme en même temps. Alors, il explique ça comme ça. Mais de toute façon, là, on rentre dans la théologie assez steak, même, je dirais, le steak des steaks. Là, tu es rendu au niveau de faire la différence entre les différents systèmes de théologie calviniste, comme supra et infra, là. Là, je t'avoue qu'il y a des briques qui ont été écrites là-dessus. Ça peut être intéressant à lire. Éventuellement, je le ferai, mais actuellement, je ne suis pas rendu. Je l'avoue bien humblement. Si jamais ça intéresse, j'ai des titres de livres que je peux leur proposer. OK, comme conclusion, on va aller voir titre 1-9. Alors ici, il parle des personnes qui sont appelées à prendre des rôles dans une assemblée. Où il dit, si se trouve quelqu'un qui soit représenté, mari d'une seule femme et un des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination. Moi, je dirais que le verset s'applique d'abord à des pasteurs ou à des missionnaires. Mais je pense qu'on pourrait facilement extensionner ce qu'il dit ici à n'importe quel chrétien. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi le verset. Parce que ce qu'il dit dans le verset 9, il dit « Bien au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant. Attaché à la véritable doctrine. » Autrement dit, Seigneur veut que ceux qui enseignent soient attachés à la véritable doctrine qui doit être enseignée. Et là, il dit le but. La fin, c'est toujours le but. Dans le but, il y a deux choses qu'il faut qu'il fasse avec ça. Quand il y a la saine doctrine. Qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine. Exhorter, ça veut dire encourager. Encourager les gens selon la saine doctrine, pour qu'ils soient capables de faire ça. Autant de chrétiens qu'ils rencontrent, autant ils essayent d'y rentrer dans la saine doctrine. Mais il y a autre chose qu'il faut qu'ils soient capables de faire, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Alors, ça ne s'apprend pas tout seul. Les doctrines de la grâce, voyez-vous, on est rendu aux 17e leçon, on va en avoir 24. Et ce que je dis, c'est que ce que je viens de faire là, comme ils disent en anglais, « I skimmed the surface ». J'ai vraiment juste présenté les doctrines de la grâce.